Mémoire vive,
présentée par Vincent Lemaire
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. L'histoire et la mémoire de la Shoah à l'école, c'est notre thème aujourd'hui. Sophie Ernst, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes agrégée de philosophie, prof de philo et chercheuse à l'Institut national de la recherche pédagogique. Vous avez participé récemment à une journée d'études sur l'enseignement de la philosophie et la Shoah qui s'est tenue à la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et vous avez dirigé un livre collectif édité par l'Institut national de la recherche pédagogique, livre intitulé « Quand les mémoires déstabilisent l'école, mémoire de la Shoah ». Et enseignement, livre collectif avec des contributions nombreuses, citons celles de Georges Bensoussan, Ronnie Broman, Jean-Pierre Rioux, Henri Rousseau, Benjamin Stora, entre autres. Et en guise de préambule à cette conversation aujourd'hui, un rappel, Sophie Ernst, la Shoah est présente dans les programmes scolaires de l'école primaire au lycée. Au collège, la question est abordée en troisième, au lycée c'est à la fin du programme de première et en terminale, les enseignants peuvent y revenir à deux occasions quand ils abordent la situation du monde en 1945 et également dans la partie sur l'histoire de France de 1945 à nos jours, au moment de présenter donc les mémoires de la Seconde Guerre mondiale. On le voit donc dans le cursus scolaire, l'histoire de la Shoah est bien présente, mais ça n'a pas toujours été le cas. À gros traits, de quand peut-on dater l'inscription de la Shoah dans les programmes scolaires ?
Je suis très gênée pour vous répondre, parce que je ne travaille pas du tout de cette façon. Je suis philosophe. Et c'est Jean-Pierre Vernant qui disait, justement, même pour expliquer son travail avec Pierre Vidal-Naquet, un cerveau de philosophe, ça fonctionne pas du tout pareil qu'un cerveau d'historien. Et ça, je crois que toutes ces questions-là, posez-les à mes collègues d'histoire, aux formateurs d'histoire, aux gens qui enseignent l'histoire dans les collèges et lycées. Ils vous répondront infiniment mieux que moi, avec des réponses précises. Je ne pourrais vous faire, moi, que des réponses assez imprécises. Je les ai pas du tout préparées, je les connais pas. J'ai envie de dire, ce n'est pas là que je peux intervenir, parce que eux le font très bien. Ce qui m'a d'abord interpellée dans cette transmission et pas cet enseignement, c'est que j'ai un souvenir très précis de ce moment, enfin très précis. Justement, entre 1985 et 1995, et on ne sait pas à quel moment exactement, on est passé d'une mémoire qui était une mémoire minoritaire, une mémoire entravée, je dirais pas du tout une mémoire occultée, mais une mémoire entravée, et une mémoire qui était portée par des milieux de mémoire particulièrement concernés et militants, à quelque chose qui est devenu une mémoire de masse. Comment ça s'est fait, par quelles étapes ? J'ai essayé de le retracer dans le livre, mais il y a quelque chose qui a été une discontinuité. Or, alors même que ce processus s'intensifiait, on avait la persistance des mots d'ordre qui avaient présidé à la période antérieure où il fallait lutter pour la mémoire, où il fallait transmettre le devoir de mémoire, où il fallait faire plus, et tout. On disait beaucoup faire plus à un moment où peut-être il fallait se rendre compte qu'on avait changé de configuration.
Et d'abord se poser la question du comment faire. Peut-être.
Ben oui, parce que on passait à une mémoire de masse et ça ne pouvait pas être dans la pure continuité avec ce qui s'était fait de façon antérieure lorsque c'était une mémoire qui essayait de s'imposer contre un silence ou contre des falsifications ou contre des méconnaissances. Il y avait à se poser des problèmes qui sont ceux de la transmission de masse. Et là, moi j'y étais particulièrement sensible. Parce que je n'étais pas du tout une professionnelle de la mémoire ni de l'histoire. Ces problèmes-là me touchent profondément, mais me touchaient à titre individuel et familial, parce que c'était un traumatisme familial extrême. Mais professionnellement, ça me touchait parce que je n'étais pas prof de philo tout à fait. J'étais prof de philo en école normale d'instituteur. J'étais dans la formation des maîtres. Et s'il y a quelque chose que je connaissais bien sur les problèmes de transmission, c'est que les modes de transmission, quand ils deviennent démocratiques, pose de vrais problèmes de structure et de fonctionnement. Ce n'est pas simplement la diffusion, l'élargissement de ce qui fonctionnait dans un petit milieu élitiste. C'est pas du tout ça. Il faut penser la quantité, il faut penser la structure, l'organisation, des outils, des aides et de la formation de masse. Et faute d'avoir fait ça, toutes les réformes de démocratisation de l'éducation nationale ont produit des effets pervers. Avec on retrouve le vieil adage latin, quoi, le pire est la perversion du meilleur. Et ça, je le savais pour les maths, pour la linguistique. J'étais à fond, on peut être à fond pour la rénovation de la grammaire et la linguistique. N'empêche que les réformes de ce qu'on a appelé toutes les maths modernes, les réformes de l'orthographe, etc. Tout ça, quand ça n'a pas été pensé avec les modes d'accompagnement, avec les outils adéquats, avec l'intelligence des réformes à faire, ça a produit des dégâts.
Par rapport à notre objet d'aujourd'hui, donc la transmission de la mémoire de la Shoah, ça en a provoqué. Vous l'évoquez dans votre ouvrage. Alors peut-être juste encore une question un peu générale pour poser notre sujet, Sophie Ernst. Alors là, elle s'adresse peut-être encore à la sociologue et non à la philosophe. Alors bon, je répondez ce que vous pouvez. Moi, j'ai l'impression, en lisant votre texte, que au moment, donc disons dans les années 80-90, où le devoir de mémoire s'est imposé au plus grand public, il y a eu une forme presque de tour de passe-passe, c'est-à-dire au moment où la société française a investi ce devoir de mémoire, elle s'est aussitôt déchargée sur l'école. C'est l'impression qu'on a eue, c'est-à-dire que l'école s'est trouvée en première ligne et l'idée de la transmission au plus jeune public a été tout de suite mise en avant.
Oui, tout à fait. Et ça m'a beaucoup frappé. C'est que, mais là encore, c'est des choses qui se passaient. Regardez comme pour la lecture, moins les Français lisent et plus on fait de la lecture un mot d'ordre pour les jeunes. C'est-à-dire qu'il y a comme ça cette façon de refiler le mistigri, la patate chaude aux jeunes et aux enseignants quand la société n'assume pas tout à fait un idéal ou une ardente obligation.
Par contre, l'école doit le porter, cet idéal.
Et l'école doit le porter. Et on fait comme si, en plus, ça allait de soi. Il faut transmettre. Et ce que je voyais, c'est que plus on insistait dans la société pour dire il faut transmettre aux jeunes générations, l'école doit transmettre, plus je voyais les enseignants extrêmement embarrassés. Et finalement, être aussi embarrassés que n'importe quel adulte qui se voit confier la charge de transmettre quelque chose qui ne lui a pas été transmis, et de parler de savoir, de transmettre des savoirs obscènes, au sens vraiment étymologique d'obscène, et ça en plus de le faire dans le cadre scolaire, avec ce qu'il est, c'est-à-dire les examens, la salle de classe, les horaires, même quelque chose d'aussi élémentaire que une cloche qui sonne. Bah, une cloche qui sonne alors que vous êtes parfois dans un moment très très, parce que à cause des questions des élèves, on n'a pas pu tenir tout à fait le timing prévu, et que on est sur quelque chose d'extrêmement émotionnel, ou que il y a une objection dure, ou qu'il a fallu faire une mise au point. On en parlera certainement plus tard sur antisémitisme, antisioniste, etc. Et ben si on est pris par ce rythme scolaire,
la dring, il faut évacuer la salle
et tout. Et là, on a quelque chose, on a un paradoxe dans le fait, et en particulier à cette époque-là, on continuait de répéter que c'était indicible, mais qu'il fallait en parler, que c'était impossible à comprendre, mais qu'il fallait le découper en sujet d'examen. Il y avait un paradoxe très dur qui mettait les professeurs, dont j'étais très proche, en difficulté. Et pour moi, c'était quelque chose, il fallait à la fois vraiment signaler cette structure où la société leur faisait une ardente obligation de quelque chose d'extrêmement compliqué, sans forcément les accompagner, les aider, leur fournir les outils et en particulier des espaces de réflexion. Et voilà.
Alors, Sophie Ernst, vous identifiez trois défis ou difficultés pour les enseignants qui doivent donc transmettre la mémoire et l'histoire de la Shoah. Premier de ces défis ou de ces difficultés, C'est évidemment un sujet d'histoire particulièrement complexe et particulièrement difficile à présenter de manière synthétique. Je vais peut-être livrer les trois difficultés, puis vous nous répondrez donc dans la continuité. Premier défi, donc une histoire complexe. Deuxième défi, un défi éducatif, puisqu'on assigne à cet enseignement à des objectifs d'édification morale particulièrement élevés. Et puis un troisième défi, donc que les mémoires ou la mémoire interfèrent constamment avec l'histoire. Donc comment présenter ces trois difficultés auxquelles sont confrontés les enseignants et les enseignantes?
Oui, donc je vous disais, moi mon métier de base c'était la formation des maîtres, ce qui fait que quand on est dans une situation d'enseignement, tous les problèmes sont emmêlés, donc il n'y en a pas un qui est, ils n'ont pas la gentillesse de se mettre dans des petites cases et de venir l'un après l'autre. Les enseignants sont prises avec tout à coup cette grande confusion. Mais quand on essaie d'aider et de voir comment on peut améliorer son enseignement, ça vaut le coup d'analyser et de voir qu'il y a quand même des ordres de difficultés qu'on peut aborder analytiquement, différemment, l'un après l'autre, et de se renforcer dans chacun des trois et qui posent des problèmes différents. Il y en a un premier qui est la complexité de cette histoire. C'est une grande histoire. C'est-à-dire que c'est pas ça, quand on veut analyser, essayer de comprendre comment tout ça est arrivé, en termes de raison, hein, pas avec des... Pas sur le mode de la piété ou de l'incantation, et qu'on veut s'affronter à cette histoire, il y a du très long terme. L'histoire de l'antisémitisme qui remonte à l'antijudaïsme chrétien, c'est sur du très long terme. L'histoire politique, elle est sur du moyen terme aussi, mais parfois on a besoin de remonter à l'émancipation, au mouvement démocratique et tout. Et il y a quantité de... Si on analyse les facteurs différents, on est obligé de déployer des temporalités différentes et de les articuler et de les présenter l'une après. Or, c'est très difficile ça quand vous êtes dans le secondaire. Vous êtes forcé d'anticiper sur des choses que les élèves ne connaissent pas, ne maîtrisent pas. Si je prenais un seul exemple, c'est que... c'est peut-être pas le bon exemple, le communisme. Quelque chose à quoi on a affaire actuellement, c'est la disparition du communisme. C'est-à-dire qu'on, les élèves actuels, on est dans une période où finalement, ce qui a tellement structuré les mentalités, le grand mouvement d'émancipation avec l'espoir d'une révolution à gauche, avec toutes les mobilisations de droite et de gauche jusque dans des guerres civiles et à des affrontements extrêmement durs, tout ça s'est évaporé dans une période très récente.
Et c'est sorti de l'horizon des élèves.
C'est quelque chose qui est très surprenant pour quelqu'un de ma génération. Je ne l'ai pas vécu, moi, directement, mais ça m'était familier. Je savais que ça existait et on pouvait reconstituer ce que ça avait pu être dans les années 30. Pour des élèves actuels, on ne comprend pas tout ça, au fond. L'actuel jeu politique entre droite et gauche ne leur donne aucun équivalent de ce qu'a pu être. Et du coup, ça nous prive de la compréhension quand même très forte de ce qui se passait en Allemagne, des combats et des forces en présence, et puis aussi de ce personnage, cette invention du nazisme qui était le judéo-bolchevique. Est-ce que ça pouvait évoquer, est-ce que ça pouvait... Voilà, c'est quelque chose comme ça. Donc c'est pour dire que reconstituer le problème historique, c'est compliqué, c'est un problème pour les historiens. Reconstituer un récit avec cette très grande complexité polymorphe, tout, de donner un récit simple... qui soit pas simplificateur, et d'arriver ça à le gérer didactiquement avec l'anticipation sur ce que les élèves ne savent pas encore tout à fait, mais qu'on va construire petit à petit au bout d'un cursus, c'est compliqué et ça demande un travail bien géré entre les historiens et quelque chose qui est la didactique de l'histoire, qui pourrait essayer de penser ça en plan d'études, en programme, pas simplement d'essayer de comprendre comment on peut faire des équivalents. Et puis, pour éviter, au fond, quelque chose qui est très embêtant, c'est que le traitement de la Shoah, même en histoire, arrive à plusieurs moment du cursus scolaire. Or, les élèves en retirent une impression de répétition à l'identique. Or, ça ne devrait pas être ça du tout. Je crois que quand on s'intéresse énormément à cette histoire, on se rend bien compte que plus on approfondit, plus c'est passionnant et plus c'est vertigineux. Et du coup, c'est pas normal que cet approfondissement chez les élèves, ça produit ce sentiment de c'est tout le temps la même rengaine. C'est pas normal. Ça veut dire que là, il y a quelque chose qui se passe pas bien dans le plan d'études, dans le programme ou dans la. Il faut trouver peut-être d'autres possibilités. Alors.
Non, j'aimerais qu'on va être obligé d'avancer à grands pas, Sophie Ernst, et simplement peut-être repartir du tout début du titre qui est donné à l'ouvrage que vous venez nous présenter aujourd'hui, « Quand les mémoires déstabilisent l'école, mémoire de la Shoah et enseignement ». Parce qu'on a évoqué donc les années 85-95 où ont été mis en place ces programmes autour de la transmission de la Shoah dans le cursus scolaire. Mais vous faites dans votre texte donc une histoire de cette mise en place qui n'est pas allée facilement. Et notamment, vous faites une périodisation des 20 dernières années. Et notamment, vous vous arrêtez longuement autour de ce qui s'est passé entre l'an 2000 et l'an 2003, c'est-à-dire du coup le fait que cet enseignement, cette transmission de la Shoah, et c'est peut-être la troisième difficulté qu'on évoquait tout à l'heure, a été perturbée par les mémoires et comment ces mémoires, donc je rappelle hein, le contexte, c'est l'époque où l'on parlait de la nouvelle judéophobie, où apparaissaient les premières polémiques autour de la mémoire de la colonisation et de l'esclavage, la deuxième intifada, le foudard islamique, bref, on voit bien que cette transmission de la Shoah s'est du coup retrouvée inscrite dans un contexte très problématique pour l'enseignant face à des élèves dans la salle de classe.
Oui, et ça me permet d'ailleurs de rebondir sur le séquencement que vous m'avez demandé d'éclaircir un peu plus tôt, le fait que ça pose des difficultés morales et des difficultés dans l'entrelac mémoire des mémoires. Et ça, ce point de vue sur la morale, je pense, c'est quelque chose qui est moins traité par mes collègues d'histoire, auxquels moi je suis très sensible en tant que professeur de philosophie. Et parce que, on le sait bien, c'est que cet enseignement, le paradoxe, c'est qu'il est pris comme un enseignement qui doit être un enseignement de connaissance, mais qu'en même temps, on lui assigne une fonction très forte dans le monde actuel qui serait de servir de socle à la morale fondamentale. Au fond,
c'est un cours d'instruction civique, en fait.
C'est plus que de l'instruction civique. Ça serait même, justement, c'est pris comme de l'instruction civique. Mais ça montre à quel point l'instruction civique se diffracte d'un côté en instruction morale, en éducation morale et en éducation politique. Et même c'est comme si l'enseignement de la transmission de la Shoah était le creuset où, dans l'enfance, on va essayer de faire un choc moral qui va peut-être permettre d'évoluer vers une formation politique. Politique au sens noble, républicaine. Mais c'est le moment où on essaye d'ancrer une réflexion politique sur les libertés.
Ça pourrait
être
bien clair, c'est ce que les adultes espèrent hein, de cette transmission.
Oui. C'est ce qu'on assigne. Or, justement, qu'est-ce qui se passe dans la salle de classe? C'est que les enfants perçoivent, peuvent, risquent de percevoir, si c'est pas, c'est quand ça rate, quelque chose qui est, ils saisissent très bien la dimension pragmatique, ou pratique, ou morale. C'est et on sait très bien ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est que ça a été perçu comme quelque chose qui était, au fond, mis au service des intérêts d'Israël où tout ça a été accusé. Bon, je ne vais pas reprendre tout ça qui a été abondamment traité. Et du coup, les professeurs se heurtent à ces chocs entre leur intention et puis ce que les élèves comprennent, eux, comme intention. Cela dit, je m'inscrivais en faux par rapport à certaines dénonciations, parce que justement, connaissant bien les terrains, je savais que la situation était beaucoup plus compliquée, que le discours des élèves était parfois confus, et que ça méritait, en tout cas, des analyses plus proches de la variété de ces discours, et que les situations recelaient beaucoup plus de jeu au sens, vous savez, où il y a du jeu dans une porte, on peut faire des choses. C'est pas, mais on n'est pas face au pouvoir des mollahs, C'était pas ça du tout. Et il y a même des choses qui sont perçues comme de la. On a mis l'étiquette concurrence des victimes, où c'est autre chose qu'il faut entendre, parfois dans des mots malheureux, tout. Mais par exemple, quand ils disent oui, c'est toujours la même chose, oui, on parle toujours des juifs et pas d'autres choses. Enfin bref, il faut pouvoir. Tranquillement, sans avoir un sentiment de catastrophe, faire parler les élèves, discuter avec eux, en acceptant d'entendre ce qui n'est pas déraisonnable, tout en mettant des freins par rapport à ce qui passe la ligne. Et ça, parfois, les professeurs étaient très mal à l'aise pour savoir où mettre le curseur, alors que je pense... Par exemple, quand un élève m'avait dit quelque chose de très intéressant, c'était plus tardivement, hein, c'était pas au moment où je leur avais demandé ce qu'ils en pensaient lorsque le président Sarkozy avait proposé de faire adopter par chaque élève
de CM2 donc de CM2, la mémoire d'un enfant déporté.
Et je m'attendais, compte tenu de ce qu'était cette classe, vraiment à forte dominante d'élèves issus de l'immigration maghrébine, africaine, puis d'élèves un peu qui m'auraient dit en toute franchise leur avis et sans tergiverser. Et en fait, ce qui ressortait, c'était plutôt qu'ils me disaient ce qui est compliqué, c'est que on peut pas réparer. On ne peut pas réparer. C'est un enfant qui est mort et on est ému, mais il est mort autrefois et on ne peut rien faire. Et alors, ils m'ont dit avec leurs mots à eux, tout. Et moi, je trouvais ça...
C'est-à-dire qu'ils avaient l'impression, ces jeunes de 2010 ou 2009 ou 2008, je ne sais pas à quelle année vous faites allusion, c'était 2009, je crois, cette proposition du président Sarkozy, mais que, voilà, on voulait leur transmettre la responsabilité d'une histoire dont ils se sentaient très loin, évidemment, enfin, eux, jeunes de 2009-2010.
C'est pas qu'ils se sentaient très loin, c'est qu'ils mettaient le doigt sur le problème moral de cette transmission, c'est que c'est une transmission sur ce qu'il aurait fallu faire. Et c'est un problème structural extrêmement important. C'est que c'est comme si toute la transmission morale et la transmission civique n'étaient pas tournées vers l'avenir ou vers ce qu'on peut faire maintenant, mais sur ce qu'il aurait fallu faire pour éviter la catastrophe. Et je trouve que c'est déjà très dur à porter. Pour des adultes, pour des jeunes, c'est une façon de les enserrer dans un nœud coulant et c'est quand même leur donner un devoir sur un mode mélancolique au sens strict. C'est enfermer les gens dans ce qui n'a pas été fait et ce qui ne pourra jamais être fait. Et ils me parlaient étrangement avec leurs mots à eux un peu maladroits, mais de quelque chose qui est profondément, qui est structurellement un des gros problèmes de cette transmission.
Alors, une dernière question, Sophie, hein, si on arrive à la fin de notre entretien. Je sors quelques lignes donc, du texte que vous avez publié. Vous dites que c'est un enseignement, la transmission de la Shoah, qui pose des problèmes qui sont à la limite de ce que peut l'école, puisque cette question de la transmission de la Shoah, elle se pose en abîme, c'est-à-dire qu'on croit au pouvoir moralisateur de l'enseignement de la Shoah. Or, justement, l'une des leçons de la Shoah, enfin une des leçons qu'en tirent les historiens, c'est qu'elle est advenue sur le continent européen, un continent qui se croyait à la pointe de la civilisation. Et vous dites, je vous cite, « Cela ne rend pas la tâche très aisée aux éducateurs qui sont supposés transmettre les fondamentaux de cette civilisation sur laquelle plane désormais le doute. » C'est-à-dire que c'est au sein de cette civilisation, évidemment donc qui portait la morale très haut, que pourtant s'est produite la Shoah.
Oui, là, vous me lancez dans un très grand problème philosophique, hein, sur, au fond, qui est une interrogation qu'on partage en ce moment avec même le groupe, un groupe qu'essaie de constituer Elisabeth de Fontenay avec Philippe Ménard. C'est comment le lieu même qui est destiné à transmettre la culture, la culture occidentale, peut-il en même temps transmettre l'événement qui a été qui a montré la faillite de cette culture. Et alors évidemment, il ne faut pas renoncer. Quand on a une question comme ça, elle est évidemment rhétorique, d'une certaine façon, parce que c'est notre travail. Mais on se rend bien compte que on doit repenser la tradition humaniste, la tradition lettrée. Il y a une façon de la transmettre qui ne peut pas faire comme si on était en 1930. Et d'une certaine manière, c'est la même tradition, mais revisitée, relue et sans doute transmise autrement. Et c'est pour ça que je pense que l'enjeu de la transmission de cette histoire, c'est pas simplement le programme d'histoire. C'est par exemple tout ce qu'on essaie de mettre en place en ce moment dans le socle commun d'apprentissage qui couvre à la fois tout l'enseignement obligatoire, le primaire et le collège, mais en fait en gros même jusqu'au niveau du bac. Donc tout ce qui va être la transmission à une classe d'âge, tout ce qu'on ne peut pas se permettre d'ignorer et qui couvre les rubriques de la culture humaniste et puis de la formation à l'autonomie, toutes les compétences citoyennes. Tout ça, c'est quelque chose qu'il faut repenser, la culture humaniste. On ne peut pas, il faut la revoir de fond en comble. Et c'est quelque chose qui va, du coup, beaucoup plus loin que simplement les horaires d'histoire et de transmission de cette histoire-là. C'est pour ça que nous avons une vaste tâche. Et même si c'est difficile, c'est au contraire un défi bien plus considérable qu'on ne peut imaginer.
Alors vous y apportez votre pierre à ce défi. Je cite donc l'ouvrage que vous avez dirigé « Quand les mémoires déstabilisent l'école, mémoire de la Shoah et enseignement » paru donc aux éditions de l'Institut National de la Recherche Pédagogique. Je vous remercie encore une fois Sophie Ernst. C'était Mémoire Vive, une émission proposée par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Trois adresses électroniques pour nous retrouver, celle de Radio RCJ, www.radiorcj.info, le site de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, www.fondationshoah.org, et enfin le site de l'émission avec toutes nos archives, www.mémoirevive.net.